9, le magazine.
D'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, car nous voici désormais au printemps. Nous allons continuer le thème de cette année, ce monde où va-t-il ? Et ce soir, nous accueillons une femme, hommage aux femmes en ce mois de mars. La seconde émission, le 29 mars, sera aussi une femme, Zarina Khan. Une femme au parcours hors du commun. Elle parle simplement de son parcours de vie. Pour en savoir plus, je vous conseille ses deux ouvrages. Le premier, La sagesse d'aimer, paru aux éditions Ozoni. Le second, La forge solaire, avec comme sous-thème La sagesse d'aimer, qui est la thématique de ces trois ouvrages, toujours aux éditions Ozoni. Et le troisième ouvrage paraîtra à la rentrée 2019-2020, Suivez bien, Zarina Khan, son troisième ouvrage, qui sortira donc à l'automne. Elle a choisi pour cette émission deux musiques. Le Stabat Mater de Pergolèse, mais avec une singularité, c'est un chœur russe. Vous comprendrez pourquoi il est russe, et c'est pourquoi c'est un chœur, alors que généralement, ce sont des chanteurs singuliers qui chantent ce Stabat Mater. Et la deuxième musique, apparemment beaucoup plus orientée vers la technique, vous verrez qu'il y a beaucoup de relations avec la seconde. Écoutons cet entretien exceptionnel où je n'ai même pas besoin de poser la question « Ce monde où va-t-il ? Quelle est votre devise ?» Elle y répond avant même que je pose les questions. Je vous laisse écouter cette femme. Je reprendrai la parole seulement à la fin de la seconde partie où je vous donnerai un commentaire d'information sur Zarina Khan et le thème « Les thèmes » qu'elle pose dans cette émission. Bonne écoute, chers auditeurs. Bonjour Zarina.
Bonjour Michel.
Alors, nous avons la chance de vous avoir en direct pour cette émission. Je viens de vous présenter très brièvement et je dirai aux auditeurs qui vous êtes plus longuement à la fin de l'émission. Alors je voudrais d'abord, Zarina, que vous nous parliez de votre parcours, un parcours unique bien sûr, comme tous les parcours. Le vôtre est particulièrement exceptionnel, particulièrement incroyable. Parlez-nous de votre chemin de vie.
Écoutez, je suis née dans la colonie russe de Tunis. C'est-à-dire que pour moi, la Tunisie était une partie de la Russie. C'est-à-dire que j'ai parlé russe, c'est ma langue maternelle, à Tunis. J'étais la petite fille de mes très chers grands-parents maternels qui ont fui la Russie pendant la Révolution d'octobre. Mon grand-père était officier de la marine du Tsar et il est parti avec la flotte de Sébastopol. Il s'est arrêté à Constantinople et certains Russes sont descendus là. Et puis lui, il a eu envie d'aller vers la Tunisie qui à l'époque était un protectorat français. Et ma mère, Irène Martineau, est née là-bas, donc est devenue française, a grandi jusqu'à ses 18 ans en Tunisie, a découvert la magie de la langue française qu'elle m'a transmise après, et elle a entendu l'appel du général de Gaulle, et elle s'est engagée dans l'armée française, c'est-à-dire qu'elle a quitté la Tunisie pour rejoindre la France occupée, et elle est devenue lieutenant dans l'armée française. Donc ça, c'est là d'où je viens, du côté de la mer. Mais après, c'est assez extraordinaire, effectivement, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, ce lieutenant, on lui a proposé de rester un peu dans la diplomatie, et on lui a proposé un poste dans un pays qui était en train de naître et qui s'appelle le Pakistan. Et elle a accepté ce poste. Et lorsqu'elle est arrivée à l'ambassade de France à Karachi, à l'époque, eh bien, était là un prince indien qui faisait partie de ceux qui voulaient fonder une terre de paix pour que les musulmans puissent y prier. Donc c'était un homme très pieux, très engagé. Et il a vu ma mère et il l'a demandé en mariage. Ça a été comme une rencontre cosmique. Et je suis née de cette alliance improbable. Je suis née en Tunisie, mais j'ai quitté, j'avais un mois, je suis allée rejoindre donc mon père au Pakistan avec ma mère. Et là, j'ai découvert, mais vraiment très tôt, et à un âge, certaines choses dont je ne me souviens pas, mais qui sont vraiment inscrites dans mes cellules, j'ai découvert l'intolérance, j'ai découvert la haine engendrée par le racisme. Et j'ai vécu vraiment toute petite fille cette condamnation de ce couple mixte qui était le premier couple mixte du Pakistan, de ce tout jeune pays. J'ai vécu cela avec une incompréhension profonde. Donc peut-être que mon parcours est habité par ce début de vie, puisque cette incompréhension, ben, j'ai essayé de creuser, de comprendre, de jamais d'admettre, parce que c'est inadmissible de détester l'autre parce qu'il a une étiquette, une nationalité, une appartenance. Mais ça a habité mon parcours au point que lorsque mes parents ont dû se séparer devant toute cette haine, ma mère a failli mourir dans une lapidation. Enfin, ça a été des choses... voilà, ils se sont quittés en plein amour, donc ça aussi, c'est assez rare, c'est une séparation qui s'est faite, c'est un arrachement. Et j'ai rejoint la Tunisie et l'école française qui a joué un rôle fondamental dans ma vie. Je crois que c'est pour ça qu'après toute ma vie, j'ai consacré à l'école énormément de mon temps, en me disant que c'est le dernier lieu d'égalité, hein, d'égalité des chances, et que c'est là que nous avons tous vraiment à intervenir au plus haut niveau de conscience. Et à 4 ans, j'ai vécu ma première expérience donc de la découverte de l'alphabet, de la magie des mots, de la poésie qui est venue en moi se poser au fur et à mesure que l'institutrice m'apprenait les lettres. Vous savez, avec les petits bâtonnets de bois, on formait des lettres et puis on formait des mots comme ça au sol. Et moi déjà, ces mots m'inspiraient tout un monde. Et j'ai commencé à écrire de la poésie, j'avais 4 ans. Mais il y avait quelque chose de trop solitaire pour moi. Et très vite, j'ai eu envie que les autres écrivent, que mes camarades de l'école maternelle écrivent aussi avec moi. Et comme ils ne répondaient pas vraiment à ce besoin d'écriture, ben je les ai fait parler. Et puis j'ai écrit ce qu'ils me disaient, les confidences, les secrets, et dans le respect évidemment de l'anonymat le plus total. Et je faisais de la couture entre ces tranches de vie qui m'étaient confiées. Et je dessinais dans la cour de récréation un cercle de craie pour que on puisse présenter ces histoires. Donc je les présentais comme des histoires, pas comme la parole de mes camarades de classe. Et ce cercle de craie faisait que les autres arrêtaient de jouer, venaient s'installer comme ça, assis par terre autour du cercle, et puis écoutaient. Et j'ai compris à ce moment-là quelque chose, peut-être pas intellectuellement, mais émotionnellement, j'ai compris que ce qui nous réunit, c'est un cercle. Et c'est un cercle où ce qui se pose est vraiment le plus intime, le plus sincère. Et que tout se rejoint, que tout se relie. Parce que dans ces secrets confiés, eh bien, il y avait la joie d'une naissance. Il y avait la douleur de la mort, de la perte d'un être cher. Il y avait l'arrachement d'un animal qui avait disparu. Il y avait tant de choses en commun. La joie et la peine habitent la condition humaine. C'est ce qui nous incarne, ce qui nous permet de grandir, mais surtout, ce qui nous permet de nous relier les uns aux autres, au-delà de toutes ces différences. Et je crois que c'est là, à 4 ans, que s'est posé vraiment le chemin qui après s'est déroulé avec une très grande fluidité. Quand le chemin est juste, je crois que rien ne l'arrête. Cette envie de créer des espaces de sincérité, de vérité de l'autre, mais des espaces protégés. Et sans le savoir, en fait, j'avais découvert et déjà créé le monde du théâtre. Et c'est mon institutrice qui un jour m'a dit « Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire avec tes camarades ?» Et je lui ai dit « Je suis en train de jouer. » Et elle m'a dit « Le verbe est juste, mais c'est plus que cela. C'est plus que ce que font tes camarades quand ils jouent une histoire dans leur coin de la cour. Tu fais du théâtre, puisque tu es auteur, tu es actrice et tu invites les autres à devenir auteurs et acteurs et tu les mets en scène et tu deviens le metteur en scène. Et quand tu dessines le cercle de craie, eh bien tu dessines l'espace scénique. » Elle a nommé, en fait, ce qui intuitivement est né dans ce besoin profond de sortir de la solitude et de la condamnation, de sortir du racisme, de l'étrangeté de l'autre et de nous réunir. Donc ce qui habite mon parcours et grâce à tout ce qu'il y avait dans mon berceau, en plus avec ses religions très différentes, donc mon père était un leader musulman, vraiment un homme très pieux et imprégné de l'islam. Ma mère était orthodoxe russe. Ensuite, après cette séparation, j'ai été confiée à des sœurs dominicaines. Donc j'ai découvert le catholicisme. Ensuite, ma mère a épousé un Allemand qui était protestant. J'ai découvert le protestantisme. Et chaque fois, je m'étonnais que les dogmes nous séparent alors que la foi unit. Et je cherchais, et je ne cesse de le faire, c'est vraiment ma quête de toujours, je cherchais ces espaces d'unification, de réunification, ces espaces d'alliance, mais des espaces sacrés cependant, et j'ai trouvé toujours l'art présent. Toujours la création qui permet aux êtres de s'élever en conscience et d'être ensemble, de pleurer ensemble, de rire ensemble, parce que l'émotion, c'est un mot qui n'est pas prisé. C'est-à-dire qu'être dans l'émotion, ça fait vite un peu dans la plainte, alors que pas du tout. L'émotion, c'est le moment où on ex motus, ça vient vraiment de en dehors du moteur, c'est-à-dire que ce qui nous anime tout à coup s'arrête, nos enjeux personnels, et s'ouvre un autre espace, infini, immense, où on peut être dans cette suspension avec les autres, et surtout avec les autres les plus différents de nous. Donc si je me suis consacrée à l'école, comme je vous disais, à l'éducation, donc éducation aussi, j'adore l'histoire des mots parce que les mots sont comme des êtres, ce sont des êtres vivants de sens, de pensée, c'est eux qui nous permettent de nous structurer intérieurement. Éducation, c'est ex-doukéré, c'est-à-dire conduire en dehors d'eux. C'est extraordinaire, comme on a oublié que l'éducation, c'est conduire l'enfant en dehors de son appartenance, de sa culture familiale, de sa culture communautaire, pour ouvrir sur l'horizon le plus large qui soit. Et que les connaissances ne servent qu'à cela, elles n'ont pas d'autre sens. C'est à comprendre combien il y a d'horizons différents et à s'inscrire dans ce chemin, en fait, qui est en mouvement, où il n'y a pas de vérité absolue. Il ne peut pas y avoir de dogme figé, puisque tout est mouvement. Comme au théâtre, le corps est en mouvement, la gestuelle raconte. Musique est présente, le rythme est présent, et ensuite les mots arrivent comme des oiseaux qui se posent sur la scène, d'abord qui partent de l'acteur et qui vont vers le spectateur, se poser en eux, éveiller en eux l'écrin de toute conscience.
Je pense que vous avez, Zarina, remarquablement synthétisé votre parcours. Et vous arrivez donc à cette espèce de mélange, d'harmonie entre l'éducation, conduire l'enfant hors de sa famille, hors des lieux qu'il croit connaître pour l'inconnu. Vous articulez cela aussi autour de la paix, de la réunion, du théâtre, des mots. Quand vous dites que les mots sont comme des oiseaux qui arrivent par surprise, etc., etc., vous donnez votre définition du monde. Alors, vous êtes actuellement, je crois, en Ardèche et vous avez un centre de théâtre à Mirabel. Parlez-nous un peu de cette situation présente.
Alors j'ai découvert l'Ardèche il y a 19 ans maintenant. C'était mon cadeau de l'an 2000, du nouveau millénaire. Je suis arrivée seule dans cette ancienne citadelle du 9e siècle, remarquablement conservée. Et j'ai trouvé un lieu dans les remparts de la citadelle où je me suis installée. Et là, je n'ai eu de cesse que de partager la beauté qui m'a accueillie à Mirabel. Vraiment, c'est un village d'une beauté digne de paysages que je connais, de l'Himalaya, où il y a une vue à l'infini, l'horizon est immense. Et la citadelle, cependant, est là pour nous protéger, pour nous réunir. Et j'ai créé effectivement le Art Café avec un K comme Cannes. Et ce Art Café était d'abord au 10e siècle très certainement une salle d'armes où les soldats venaient déposer leurs armes. Et symboliquement, moi qui suis un peu une ambassadrice de la paix, en tout cas je tente par toutes les formes que je crée de nous réunir en paix. Eh bien, le Art Café, lorsqu'il y a un concert, un spectacle, eh bien, je dis aux spectateurs qu'ils peuvent y déposer leurs armes symboliquement, qu'ils les retrouveront à leur départ, ils pourront repartir avec, mais que c'est un temps suspendu où, effectivement, nous allons entrer dans l'art ensemble, dans l'art aussi de la cuisine, parce qu'on y mange. On y mange des choses un peu de tous les pays, avec ces épices qui ont imprégné mon enfance. Et ce centre, je voulais l'ouvrir dans ce lieu très désert. Mirabel, c'est un village où on est une trentaine d'habitants. Donc vraiment, on est très peu nombreux. C'est extrêmement calme. Et j'avais envie que les autres qui vivent dans les villes, qui vivent dans le bruit et quelquefois la fureur, puissent trouver là de quoi faire une halte profonde, une halte régénérante, réparatrice, une halte de silence, de musique et de poésie. Et voilà, j'anime à bien évidemment.